Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous espère au mieux en ces temps encore troublés. Et c'est reparti pour un tour pour certains d'entre nous. Je suis bien heureuse de vous accueillir pour une nouvelle heure d'échange et de partage. Hier, nous philosophions, nous parlions des preuves d'amour. Est-ce que l'amour s'éprouve ou est-ce que l'amour se prouve? Une émission à retrouver en replay sur votre application RTL. Merci à vous de nous prouver justement votre fidélité en nous écoutant chaque jour entre 14h30 et 15h30 sur l'antenne d'RTL. C'est un grand entretien que nous vous convions aujourd'hui. Un autre mode de vie, en guise de maison, une cabane de 35 mètres carrés faite de foin et d'argile, une symbiose avec leurs convictions et la nature. C'est le quotidien que Caroline et Jonathan Attias ont choisi d'offrir à leurs deux petites filles et puis à eux-mêmes aussi. Ils vont nous en parler. Qu'est-ce qui les a poussés à vivre en dehors de notre système et à quoi ressemble leur journée, leur quotidien, jusqu'où iront leurs convictions? Ils nous éclairent pendant une heure sur cette antenne. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et composer le 3210 si vous souhaitez aussi communiquer avec eux. Jonathan et Caroline Attias, bonjour.
Bonjour.
Soyez la bienvenue. Caroline, je veux bien que vous approchiez le micro de vous pour que l'on puisse vraiment profiter de ce que vous avez à nous dire. Jonathan, vous êtes conférencier, journaliste et enseignant universitaire en lobbying citoyen et vous êtes auteur de ce livre, La désobéissance fertile pour une écologie offensive, aux éditions Payot. Caroline, vous êtes doula. Qu'est-ce qu'une doula pour ceux qui l'ignorent?
C'est un accompagnement psycho-émotionnel pendant tout le processus de la grossesse, de l'accouchement et du postpartum. C'est un grand tabou sociétal. Il y a beaucoup de femmes de couples d'ailleurs, qui ont besoin d'être accompagnées dans ces moments-là. Et surtout qu'on est loin de nos tribus maintenant. Donc voilà, il y a tout ce travail affectif et émotionnel qui ne peut pas être pris en charge par une sage-femme. Et donc, on le fait.
Vous êtes créatrice du site Tata Doula. Justement, Caroline, vous envoyez naître des petits bouts. Vous assistez justement à des naissances, à ces moments absolument extraordinaires. Est-ce que justement ça fait partie aussi, c'est aussi pour eux que vous avez choisi de vous engager dans cette sorte de combat à la fois offensif, on y reviendra, et pacifiste qui est le vôtre, Caroline?
C'est très gentil de poser cette question parce que c'est principalement pour eux, j'ai envie de dire. On s'est rendu compte que l'écologie, c'est pour les générations futures parce que les souffrances que nous, on va en avoir dans notre génération seront moindres comparées aux futures générations. Et voilà, on s'est vraiment dit qu'est-ce qu'on peut apporter. Alors, bien sûr, il y a l'écologie dans la nature, mais il y a l'écologie humaine aussi.
Et puis du corps.
Et du corps, voilà. Donc, faire arriver les bébés dans un contexte émotionnel d'amour, les accueillir dans un cadre où les parents sont en sécurité, où les parents sont heureux, et finalement, si on veut un monde apaisé, il faut des gens apaisés, et donc on essaye d'apporter cette paix dès la naissance.
Vous faites souffler déjà un vent d'apaisement dans ce studio. Et Jonathan, non mais c'est vrai, vous êtes beau, vous êtes rayonnant, en fait, est-ce que c'est ça aussi? Est-ce que c'est pour ça? Parce que vous êtes parfaitement aligné avec vos convictions, avec vos ambitions, que vous êtes aussi beau l'un l'autre, et vos petites filles aussi, je l'imagine.
À vrai dire, je ne sais pas, merci beaucoup. En tout cas, nous, on est fiers de ce que l'on fait tous les jours. Et c'est vrai qu'on se sent aligné avec nos valeurs. Et c'est quelque chose qui, personnellement, me manquait peut-être dans ma vie parisienne. C'est que je prenais beaucoup l'écologie et toutes ces valeurs-là, mais j'avais du mal, en fait, à les vivre. Et aujourd'hui, je me sens véritablement appartenir à cette nature que je souhaite défendre, et Caroline aussi. Et c'est vraiment le message qu'on veut véhiculer, c'est que nous, on l'a fait, donc tout le monde peut le faire potentiellement, et on a cette capacité humaine à régénérer, à grader ces territoires.
Heureusement que vous étiez d'accord quand même. Parce que
on s'est rendu compte parce qu'on était d'accord.
Ouais, c'est ça, j'imagine. On va revenir sur votre vie d'avant. Pour ceux qui nous écoutent, vous n'êtes pas né dans une cabane de 35 mètres carrés au milieu de la Corrèze. C'est bien au contraire, c'est une démarche qui a été la vôtre. Vous parlez de votre vie parisienne. Qu'est-ce que vous faisiez auparavant, Jonathan?
Donc, moi, j'ai grandi dans le 16e arrondissement.
De Paris,
tout à fait. Donc, dans des milieux assez aisés, assez privilégiés, avec beaucoup d'amour, néanmoins, toujours. Et je travaillais dans le milieu de l'audiovisuel. Je concevais des programmes télévisés. Donc, c'était pas du tout un quotidien qui, spontanément, m'aurait entraîné à devenir un jour, potentiellement, un gardien d'une terre. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, un moment émotionnel qui nous prend et qui va au-delà, simplement, de la raison, qui va au-delà de peut-être de notre formation initiale. Et en fait, c'est ces destinées-là que je trouve hyper belles parce que nous, on a la chance de la vivre. Et en fait, quand on a entrepris ce chemin-là avec Caro, c'est comme si la Providence se mettait aussi en route pour nous aider à accomplir tout cela au travers de rencontres. Et nous, on a toujours eu un rêve qui nous a porté d'idéal, de vie, d'utopie. Et en fait, c'est comme si le monde nous disait « Rêve, Jonathan, et moi, je vais t'aider à avancer sur ce rêve. » Et en fait, voilà, même si la vie, parfois, est un peu difficile, que peut-être comme vous, comme nous tous, on a tous des choses qui nous font bouger ou douter, le fait qu'il y ait ce rêve-là, j'ai l'impression que ça nous porte beaucoup.
Vous n'êtes pas que des rêveurs, vous êtes des faiseurs aussi. On reviendra sur votre vie, à vous, Caroline, dans un instant. Nous sommes en direct, vous l'avez compris, jusqu'à 15h30. C'est à ce grand entretien que l'on vous convie. Vous allez peut-être, effectivement, révéler, je dirais, des vocations de vie. Et je suis persuadée que certains, en vous écoutant, auront des envies d'ailleurs, ce qui nous prend tous en ce moment. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais parce que vous, on reviendra sur votre confinement qui est quand même assez particulier. On est en direct, à tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL.
C'est le deuxième extrait de son dernier album, À l'aube revenant.
Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Ils nous font le plaisir d'être dans ce studio en direct sur RTL jusqu'à 15h30. Ils ont quitté leur cabane de 35 mètres carrés. Votre jolie cabane. Parce que bon, c'est une cabane. Vous l'avez construite, hein, d'ailleurs, on va y revenir. Mais enfin, il y avait les fondations, les bases. Mais vous allez nous expliquer tout ça. Votre si jolie cabane dans laquelle vous vivez, Caroline et Jonathan Attias, depuis maintenant 2 ans avec vos 2 filles. L'anniversaire de la plus grande, c'est demain. Elle aura 6 ans.
Exactement.
Et la plus petite ?
Elle a eu 2 ans en décembre.
Donc ça veut dire, Caroline, que vous avez emménagé dans votre cabane à la naissance, finalement, de la petite dernière.
Exactement. On n'a pas accouché dans la cabane, mais oui.
Mais c'était presque ça, quoi.
Mais c'était presque ça, dans un petit chalet pas loin.
Qu'est-ce que vous faisiez alors, vous, avant, justement, Caroline ? Vous étiez dans le domaine du luxe.
Oui, j'ai dirigé des établissements. Donc, j'ai été directrice F&B d'un palace.
Ça veut dire quoi, F&B ?
Food and Beverage, c'est on s'occupe du room D'accord. service, du restaurant, du bar. J'ai aussi travaillé dans des grands restaurants parisiens, enfin dirigé des grands restaurants parisiens et à la fin même un studio photo, enfin plutôt dans l'univers de la mode à la fin.
Donc à l'opposé de ce que vous vivez.
Aux antipodes.
Est-ce que vous vous sentiez en décalage avec le monde dans lequel vous évoluiez à l'époque ?
Je pense que je ressentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que j'avais tout ce que la société m'avait dit qu'il fallait avoir et que pourtant je ne me sentais pas pleinement épanouie, heureuse, fière de ce que je fais. Je me souviens que j'avais des gros moments de déprime un petit peu et en fait c'est vraiment un voyage au Brésil qui m'a permis de déconnecter pendant un mois cette vie et de me dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire. Je me souviens avoir ressenti une joie qui était hyper proche de la joie qu'on ressent quand on est enfant, de d'émerveillement constant, parce que c'est magnifique. Et je crois que c'est toute cette beauté a réveillé un amour, une joie que j'avais perdue. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je veux que mon quotidien, dans mon quotidien, ce soit ce que je vise, quoi, cette joie, cet émerveillement. Et après, j'ai mis chaque pas suivant vers cet objectif
D'une authenticité, parce que ce que vous nous racontez, c'est ça, c'est que la joie dont vous nous parlez, c'est la joie de l'authenticité.
Mais il y avait une envie d'être une meilleure personne aussi. Je me souviens, en rentrant de ce voyage, je m'étais dit, mais je fais rien pour les autres, tout ce que je fais, c'est tout le temps pour moi. Et il y avait vraiment une vraie volonté, enfin, un message intérieur de dire, Caroline, il faut que tu sois une meilleure personne, il faut que t'aides autour de toi, il faut que tu dégages quelque chose de différent.
Vous étiez déjà amoureux à l'époque ?
Pas à l'époque de son voyage. On était amis à ce moment-là et on travaillait ensemble. On faisait une émission sur Internet qui s'intitule Les gens qui s'aiment, mais au sens de semer. Et donc, on avait vraiment à cœur de prôner des nouveaux changements. Et donc, c'est Caro qui l'a présenté. Et moi, je donnais une chronique un peu dessus. Et ensuite est né notre amour d'abord en rêve. On a rêvé le même jour l'un de l'autre et qu'on avait une mission qui nous portait. En fait, c'est assez incroyable. Et donc, on s'est appelé pour se le dire. Et puis, ça nous a mis un peu la puce à l'oreille. Et puis, voilà.
Alors, qui a eu l'idée ? Qui s'est dit à un moment donné, bon, alors tu vois, toi, tu es dans le luxe. Moi, je suis dans la télévision. On a tout ce que la société nous dicte d'avoir. On possède tout, mais pour ailleurs, on est un peu à côté de nos pompes. On n'est pas dans la vie qu'on devrait avoir. Donc, on va déclencher un changement. Qui a eu cette idée ? tous les deux ?
En fait, on avait tous les deux enclenché ce parcours-là, cette dynamique, mais de façon très différente. Caro, à ce moment-là, était en van et se sillonnait un peu la France. Moi, je sortais un documentaire au cinéma à ce moment-là qui s'appelle Déclic de conscience. Et donc, je partais découvrir plein de villages et de lieux où je me projetais. On se disait, bah, peut-être qu'on pourrait déployer de la vie. Et puis, à chaque fois, on se disait l'un et l'autre, bon, bah, quand il y en a un qui trouve un super terrain, on se prévient et on va s'installer ensemble. Et on a toujours eu cette utopie en fait qui nous a animés et puis on l'a rejoint en fait, on a rejoint ces visions là l'un et l'autre et pour créer notre rêve ensemble.
Vous avez trouvé votre terrain?
Tout à fait. Après un voyage qu'on a nous-mêmes effectué en van.
Ouais.
Et en fait, nous on a toujours eu envie de nous dire allons vers cette utopie, allons la créer, vivons dans la nature. Qu'est-ce que ça ferait si, au lieu de dégrader comme on a toujours fait jusqu'alors, si on pouvait être nous aussi, on pouvait aider en fait, à grader véritablement à faire cela. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, le mot « agrader », c'est un mot qu'on a découvert tout récemment, parce que on avait dans notre vocabulaire que le mot synonyme de dégradation, mais on n'a même pas le mot pour améliorer notre façon de vivre. Et donc voilà, on a eu ce rêve, on a rencontré François qui lui habite sur son terrain depuis 15 ans, un peu plus, et il nous a transmis en fait véritablement cet amour pour les vivants et cette capacité à œuvrer pour ramener de la vie sans cesse. Et donc c'est ce qui nous a inspiré avec la désobéissance fertile dont on parle dans le livre justement, c'est que on a tous la possibilité de nous devenir des gardiens pour nos territoires et véritablement d'œuvrer pas à pas pour contribuer à régénérer cette villa qu'on a auparavant détruite.
Alors, vous avez rencontré François, là vous vous êtes dit, allez, on prend nos clics et nos claques, on lâche nos appartements, je raccourcis, hein, et on va s'installer dans une cabane. Donc cette cabane, il y avait des fondations, hein, on va dire ça comme ça, et après vous l'avez construite. Vous y vivez aujourd'hui, on va en parler dans un instant, à tout de suite.
RTL.
On est fait pour s'entendre. Vous êtes bien sur RTL.
14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Alors, Jonathan et Caroline, vous êtes nos invités. Monique vous écrit, elle a 73 ans, parce que vous savez, ici, c'est une émission. Vous avez la radio, au fait, ou pas ?
On capte la radio.
Vous captez la radio, mais vous ne l'écoutez pas forcément.
Si, mais on a peu de stations.
D'accord. Eh ben, choper RTL, hein, parce que c'est vraiment une très, très bonne station. Eh bien, soyez les bienvenus sur RTL. Cette émission existe depuis 10 ans, hein, je vous le dis au passage. Et c'est intéressant parce que, en fait, votre monde vient aujourd'hui s'intégrer au nôtre, et on vous écoute, et on n'a qu'une envie, c'est d'aller dans le vôtre. À star donc de Monique qui a 73 ans, qui dit « il est trop tard pour moi ». Voilà, ça me rappelle un peu la période hippie de mon époque, en bien plus responsable. Je les admire et qu'ils sont beaux, mais je ne sais pas si j'aurais eu le courage. Est-ce qu'il faut du courage pour assumer ses convictions et construire sa cabane, puisqu'on va en arriver à ça, Caroline?
Oui, je pense qu'il faut du courage. Il faut avoir déconstruit beaucoup de choses, en fait.
Intérieurement.
À l'intérieur, voilà, il y a beaucoup de schémas. En fait, c'est presque des lois tacites, en fait, d'un mode de vie très précis, avec une carrière, avec une maison, avec une auto. Et donc, évidemment, ça demande du courage de dire non à tout ça, de dire non à toute cette forme de confort pour aller vers quelque chose de totalement différent. Mais finalement, on est vraiment récompensé à la hauteur de ce courage, parce que le confort intérieur qu'on a gagné, il vaut mille fois
le confort matériel que vous aviez avant.
Exactement.
Ouais, ça ne m'étonne pas et ça se voit. Comment est-ce qu'on construit une cabane ?
Alors ça, c'est des connaissances que nous a transmises François.
Oui. Ne nous écoute pas puisqu'il n'a pas la radio.
Qui ne nous
il ne
capte
pas.
Oh, c'est un petit filou. Hein. Il est capable d'être allé chez un voisin, avoir trouvé.
Nous, on dit que ce sont des habitats qui sont compostables parce qu'ils sont construits quasiment exclusivement avec les matériaux qu'on trouve sur nos terrains.
Donc ils peuvent disparaître avec la nature.
Exactement.
Vous ne polluez pas avec vos habitats.
Ouais. Et donc, ils vont nous abriter, mais passer un certain temps, ils vont abriter d'autres espèces. D'ailleurs, François appelle ça des cabanes oiseaux, parce qu'il veut que nous puissions vivre, nous aussi, comme des oiseaux qui constituent des nids très facilement et qui puissions bouger, en faire ailleurs.
Un peu de nomadisme, vous pouvez bouger avec votre cabane, quoi.
En tout cas, on a cette compétence-là, à travers ces connaissances acquises. Donc, pour la structure de la cabane, on utilise des perches de bois qu'on prend soin de couper à l'hiver, quand la sève est redescendue dans la terre, pour que le bois soit plus solide. Et aussi, qu'on récompense également en plantant beaucoup d'arbres aussi à cette période-là de l'année, puisqu'on dit qu'à partir de la Sainte-Catherine, donc le mois de novembre, tout bois prend racine et on coupe beaucoup de petites boutures, c'est des petites branches de saules, de noisetiers et de peupliers.
Et que vous allez replanter avec les filles dans le terrain.
Et des glands de chêne aussi, voilà, tout à fait. Et à la suite de ça, on va monter des murs, nous, avec du foin, même si la paille a un meilleur pouvoir isolant. Une fois qu'on a ces murs qui sont montés, on va enduire avec de l'argile pour assurer une isolation qui soit aussi bien thermique qu'acoustique. Et en fait, on prend soin de faire des grands débords de toit ensuite et pas d'isoler l'extérieur pour que véritablement des oiseaux puissent y constituer leur nid que nous vivions avec eux. Donc c'est ce qui se passe au printemps là.
Vous les entendez et tout ?
Tout à fait, tout autour de nous.
Ils sont avec vous ?
C'est notre réveil matinal.
Ah, c'est génial. Ils sont à l'heure bleue, c'est très tôt. Hein.
Exactement, c'est très tôt.
C'est très très tôt quoi.
En ce moment, c'est autour de 6h30 qu'on les entend chanter. Donc il y a des moments où on aimerait dormir plus, je vous l'accorde, mais c'est tellement beau. Et puis nos filles sont hyper heureuses en fait de vivre avec cela. Il y a comme une poésie.
Je me rappelle de l'émerveillement de notre première nuit dans la cabane, réveillée par une espèce de symphonie d'oiseaux. On s'est tous les deux regardés en se disant mais waouh quoi. En plus on est des fans de musique classique et c'était vraiment un genre de concert privé assez incroyable
qui nous était offert.
Alors ce concert vous l'avez tous les jours. Maintenant la vie quotidienne, comment ça se passe quand on vit dans une cabane? Parce que vous n'êtes pas déconnecté du monde. Alors je ne parle pas de technologie, hein, attention. Hein. Mais ce que je voudrais vraiment que nos auditeurs comprennent, c'est que, pardon de le dire comme ça, mais vous n'êtes pas dans une illumination de vivre dans une cabane et de ne pas être dans notre monde actuel. Hein, on est bien d'accord.
Oui,
vous êtes un jeune couple, vous travaillez, vous avez vos activités extérieures aussi, vous avez des filles qui sont scolarisées. Enfin bon, donc vous êtes de votre époque, bien dans votre époque. Néanmoins, comment ça se passe au quotidien? Par exemple, l'hiver, il a été rude là?
L'hiver, évidemment, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. C'est-à-dire qu'il faut avoir assez de bois qu'on va scier pour chauffer, parce qu'on a un grand poêle à bois qui nous chauffe très bien. Donc il y a des contraintes auxquelles il faut s'en référer comme ça. Mais en fait, ce qui nous a animé énormément par rapport à cette vie, ça a été véritablement de nous dire que on pouvait agir. Et si on agit de cette façon-là, je veux dire, pardonnez-moi, c'est qu'on veut être avec la société. C'est absolument pas pour
mais
nous en
ça.
Extraire.
Voilà.
C'est de faire avec elle et montrer, parce qu'on l'explique aussi dans le constat qu'on dresse, c'est qu'il est très compliqué. Aujourd'hui, on est face à des extinctions, on est face à des destructions d'écosystèmes. Et donc, c'est hyper réfléchi, notre façon de vivre. Elle n'est pas
égocentrée. Voilà, vous avez appris beaucoup pour pouvoir vivre comme ça aussi.
Et pour transmettre, pour dire qu'il est possible, en fait, à tout un chacun de faire partie de la solution. Parce qu'aujourd'hui, on est complètement déconnecté de cela dans nos quotidiens. Et en fait, si nous y sommes parvenus, on peut le faire. Et c'est vraiment le témoignage qu'on veut livrer à chaque fois qu'on a cette opportunité, comme ici, d'en parler. C'est qu'on peut rêver nos existences et on peut donner vie à ces rêves à tout instant. Et parfois, on a du mal parce que la période actuelle est difficile, notamment, elle est un peu morose. Et nous-mêmes se ressentons parfois des doutes ou de la peur et de la tristesse. Mais en fait, si nous débloquons toutes ces peurs, si nous débloquons toutes ces frontières et ces barrières que nous nous imposons, eh ben en fait, on peut aller vers un futur qui soit souhaitable. Et c'est vraiment ce dont on a véritablement besoin, je pense, aujourd'hui, pour nous, notre humanité. Et je pense qu'on peut y arriver, en fait.
Vous nous parlez, pardon, mais bien sûr, je vous sens très habitée par tout ça, mais on va y revenir, vous inquiétez pas, on est ensemble pendant une heure. Mais pour ceux qui nous écoutent, vous parlez d'une cabane compostable, d'accord? Comment ça se passe pour l'eau? Comment ça se passe pour l'électricité? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour ceux qui nous écoutent et qui ne comprennent pas forcément ce que c'est que de vivre dans une cabane en 2021?
Alors, on a la chance d'avoir plusieurs sources sur le terrain et donc un captage en amont de notre cabane qui, par simple gravité, arrive jusqu'à notre robinet. Donc voilà pour l'eau. On a un simple panneau solaire parce que finalement, changer de mode de vie, ça veut dire aussi changer notre façon de
Bien
consommer
sûr.
L'énergie.
Exactement.
Donc on a une consommation très simple, très faible en énergie, qui est de juste avoir de la lumière le soir, recharger nos téléphones et recharger un ordinateur. On n'a pas de frigo, on utilise beaucoup la low-tech, donc un frigo du désert et un frigo enterré. On a un four solaire, on a le poêle à bois, comme on l'a dit, avec vraiment des coupes raisonnées aussi de notre forêt, voire que des branches, voire des résidus d'arbres qu'on va faire sécher. Donc voilà.
Donc en termes de confort, même si les choses sont différentes, vous ne vivez pas dans l'inconfort. Vous avez toujours le confort que vous aviez avant.
Ah oui, 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 l'idée, c'est ça. L'idée, c'est vraiment quand même d'avoir une vie confortable. Hein.
Ouais, on est bien d'accord, mais c'est pour que nos auditeurs le comprennent. Voilà, vous ne vivez pas comme dans Koh-Lanta. On va se retrouver dans un instant parce que vous savez, le monde tourne et puis il n'est pas très jojo en ce moment. On va faire un tour par l'information. À tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30.
Moi, je suis gourmande, hein, je prends une demi-heure au passage, jusqu'à 15h30, hein, Hortense Crépin, pour notre émission. On va laisser les grosses têtes quand même, à un moment donné, prendre le relais. Je suis très gourmande parce que le sujet est passionnant aujourd'hui. On accueille aujourd'hui donc Caroline et Jonathan Attias. Jonathan, il signe un livre, La désobéissance fertile pour une écologie offensive chez Payot. Vous allez nous expliquer un petit peu plus tard de quoi il s'agit. Néanmoins, des questions qui nous sont arrivées la part de nos auditeurs. Et d'ailleurs, on était en train d'écouter l'information. Est-ce que vous êtes connecté aux infos? Parce que tout à l'heure, quand même, vous avez vu dans un écran, vous avez dit, mais c'est qui le monsieur? Et ouais, c'est Jean Castex. Ça fait un an quand même qu'on le connaît, nous. Vous, ça fait combien de temps?
Ça fait un mois. On l'a découvert en allant visiter nos parents, voyant regarder les informations.
Voilà. Donc, dans l'information, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Le confinement, on est en train, vous le savez, hein, de rebasculer, en tout cas pour 16 départements en France, dans un confinement. Est-ce que cette actualité vient jusqu'à vous? Est-ce qu'elle vous atteint? Comment ça se passe?
En fait, je pense que nous, on fait le choix de nous préserver. Et je pense qu'il est hyper important de nous préserver quand il y a autant d'informations qui sont anxiogènes et sur lesquelles il est difficile d'avoir une latitude en termes d'action. Nous, on fait ça pour notre santé mentale aussi. Et donc, évidemment, de par le cadre dans lequel nous vivons dans la nature, on a cette chance naturellement d'avoir une potentialité infinie de voir en plus là au printemps la nature se déployer. C'est extraordinaire en fait. Mais aussi, je pense qu'on essaye vraiment de nous préserver et d'agir véritablement sur les leviers sur lesquels on peut et
vous,
qui nous semblent prioritaires.
Je comprends. Ouais. Voilà. Et ce levier, donc, c'est l'écologie et la désobéissance fertile. Vous parliez, de visiter votre entourage. La question se pose, comment votre entourage a-t-il réagi, Caroline, lorsque vous leur avez annoncé cette nouvelle façon de vivre ?
En fait, moi, je viens d'un milieu social quand même moins aisé, on va dire, que Jonathan. Donc, avec une certaine fierté de voir son enfant quand même réussir et peut-être passer dans la
exploser le plafond de verre, quoi.
Voilà, exactement. Ça a beaucoup questionné, on va
forcément,
dire, dans un premier temps, en disant, mais tu réussis, tu gagnes bien ta vie, qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans, etc. Donc, au début, ils étaient un peu interrogatifs. Puis, je suis partie longtemps en voyage. Et du coup, quand je suis revenue, ils ont vraiment eu une Caroline transformée et apaisée et avec une envie d'avoir des relations différentes et plus profondes. Et je pense qu'ils ont très vite vu qu'ils allaient gagner à ce changement plus qu'ils perdent. Alors, très certainement qu'au début, ça devait faire un petit peu jaser les amis, les cousins, etc. Mais je pense que, comme dans toutes les familles, il y a cette volonté de nous voir heureux et épanoui.
Dans les meilleures familles.
Voilà.
Dans une vraie famille normale. Ouais.
Et ils voient que nous le sommes et ils voient que si ce bonheur, il rayonne autour de nous. Donc voilà.
Est-ce que vos parents ou votre famille étaient sensibles aussi à vos propres sensibilités, je dirais, Jonathan ?
Alors, avec mes frères, on a eu la chance d'avoir des parents toujours très bienveillants et qui nous ont dit peu importe ce que vous faites, on vous aimerait,
génial,
on vous accompagnera.
Ouais.
Et ça a été vraiment une immense force qu'ils ont eu à notre égard. Alors évidemment, quand je suis sorti d'école de commerce et que j'ai annoncé à mon père que je voulais partir vivre à la campagne, il a pas sauté de joie spontanément.
Attends, parce qu'il y a vivre à la campagne, il y a aller vivre dans une cabane.
Oui, et aller vivre ensuite dans une cabane. Mais ça s'est fait plus progressivement parce que ils ont vu que j'agissais en fait dans la société, parce que auparavant je m'intéressais aux lois et j'essayais de les changer de l'intérieur et j'y étais parvenu d'une toute petite à un moment donné qui a eu quand même un impact. Donc ils ont compris que j'étais pas un illuminé ou que je voulais pas m'extraire de ce monde-là. Et en fait, ça les a rassurés beaucoup. Encore aujourd'hui, en fait, ils veulent pas faire ce choix de vie nécessairement, mais de voir qu'on peut y arriver, parce qu'ils voient nos filles hyper épanouies, ils voient
alors,
que nous le sommes aussi.
Ouais.
Et donc, ça, je pense que ça rassure énormément. Et ils voient qu'on a la tête sur les épaules et que c'est mûrement réfléchi, toutes ces décisions de choix de vie que l'on prend aujourd'hui.
Elles sont dictée par une forme de raison. Voilà, c'est raisonnable, selon vous. Vos filles, justement, Caroline, donc comment s'appellent-elles ?
Lia et Mani.
Voilà, alors quand je vois Lia et Mani, il y a des images de votre vie qui circulent. Moi, ça me rappelle mon enfance. Alors, je ne vivais pas dans une cabane, mais j'ai vécu à la campagne. Est-ce que, pour vous, effectivement, c'est une façon de les enrichir dès le départ et de leur donner des bases pour ériger une vie en accord avec, avec le monde actuel ?
Oui, clairement, je pense que... cette sensibilité à défendre une nature lorsqu'on en est coupé, c'est un petit peu compliqué. Et je pense que nos filles, elles ont assez conscience de ça, c'est-à-dire de tout l'écosystème qui leur permet de vivre, de respirer, de se nourrir, de boire, et donc de l'importance de soigner tout ça, parce que ça paraît être une intelligence primaire finalement que de prendre soin de celle qui nous porte, qui nous nourrit, qui nous fait vivre en fait. Donc voilà, on est assez fiers de voir qu'elles ont des comportements et des discours. Par exemple, la maîtresse d'école.
Voilà, parce qu'elles sont scolarisées. Oui. Enfin, la plus grande est scolarisée.
Elle nous disait qu'elle faisait preuve de beaucoup d'empathie auprès de ses camarades, etc. Donc voilà, on sent que cette sensibilité humaine, écologique, de par notre mode de vie, est intrinsèquement acquise en fait.
On va se retrouver dans un instant si vous le voulez bien. On a des messages, beaucoup nous parlent de courage. Vous serez les gagnants car vous savez ce qui est essentiel, nous écrit Karine. Voilà. Nymphéa, qu'est-ce que j'aimerais faire cela ? Et puis Dragou Pape, bravo, ça me réconforte dans mon projet futur. Ah, vous voyez ? C'est en train
de... Oui, parce que c'est en train d'émerger tout cela.
Exactement. Merci, nous écrit Dragou Pape. À tout de suite.
RTL.
Ferry Flamand.
Flavie Flamand sur RTL
jusqu'à 15h30.
Jonathan, Caroline, Michel qui nous écoute nous demande de quoi vivez-vous financièrement, j'entends. C'est intéressant comme si effectivement l'habitat quelque part
allait définir qui
vous êtes, votre façon de vivre forcément, mais et puis votre intégration à la société. Donc on va revenir, peut-être que vous nous avez pris en cours de route, Michel, mais vous, Jonathan, vous êtes enseignant. Vous êtes conférencier, vous êtes journaliste.
Oui, c'est autant de professions que j'exerce pour partager en fait cette expérience-là, que ce soit au travers de notre façon de vivre, mais aussi de l'expérience des lois et de l'impact qui nous est possible de donner. Et donc, on navigue entre un monde où on cherche à aller vers une autonomie collective, donc à être moins dépendant possible de services extérieurs, mais en même temps, en étant très lié et de par nos professions aussi, un contact direct avec le monde.
Voilà, ouais. Ça n'est pas votre habitat qui vous définit, en fait. Vous pourriez être conférencier, journaliste et enseignant universitaire et vivre dans un appartement.
Mais voilà. Complètement, c'est même le chemin le plus classique.
Exactement, sauf que vous avez décidé de vivre différemment. Exactement. Et en symbiose avec la nature et vos convictions. Et vous, Caroline, donc vous êtes doula, vous accompagnez donc des femmes qui le souhaitent pendant leur grossesse et au moment de leur accouchement pour être en symbiose avec ce qu'elles vivent aussi, je dirais, parce que c'est quand même le mot qui revient le plus à symbiose. Donc vous avez des revenus, donc vous payez des impôts, donc vous êtes des gens tout à fait normaux, sauf que vous vivez différemment de nous, puisque vous avez décidé à un moment donné d'être dans ce que l'on appelle la désobéissance fertile. C'est d'ailleurs le livre de Jonathan, Michel, parce que Michel écrit des livres aussi. Jonathan écrit des livres, on le retrouve aux éditions Payot. Alors déjà, la désobéissance fertile. Autant la fertilité, je la comprends, autant la désobéissance, qu'est-ce que vous voulez dire par là, Caroline ?
Pendant notre voyage en van, on a rencontré plein d'alternatives et très vite, on s'est rendu compte que ce qui empêchait les gens de vivre pleinement leur rêve d'harmonie dans la nature, c'était les lois qui étaient très restrictives en matière d'habitat léger. Et du coup, on s'est dit, mais on n'a pas le temps, en fait, que les lois, elles changent. Et Jonathan, à travers son travail passé, savait à quel point c'était chronophage d'essayer de changer une loi. Et donc, on s'est dit, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que l'obéissance, en fait, dans notre histoire, elle nous a mené presque au pire carnage de notre histoire, alors que la désobéissance, elle nous a mené à l'évolution des droits humains. Et on s'est dit, en fait, il faut qu'on soit cette société civile qui désobéit dans un premier temps pour faire bouger le cadre juridique. Et on s'est dit que c'était le chemin, la façon la plus rapide d'incarner en fait le message qu'on prenait. Et il faut savoir quand même que si on a choisi des conditions qui peuvent sembler radicales, c'est-à-dire de choisir des terrains agricoles, une cabane qui soit construite avec ce qu'on trouve autour, c'était aussi parce que c'était un peu un truc d'écolo bobo d'aller vivre dans la nature, parce qu'il fallait payer un terrain constructible qui coûte très cher, que construire une maison de façon écologique, ça coûte très cher. Et donc, on avait vraiment cette volonté de se dire, si on veut incarner ce message, il faut que ce soit accessible, à la fois dans les savoirs, mais aussi économiquement, parce que si tu dois t'endetter pour aller vivre dans la nature, c'est pas possible.
Oui, je comprends. Jonathan ?
Oui, en fait, c'est ce que dit Caro, c'est que c'est l'idée de placer la conscience systématiquement avant l'obéissance. Et en fait, on a toujours besoin, en effet, qu'il y ait des personnes qui soient à la marge à un moment donné pour faire évoluer le cadre. Néanmoins, on est hyper obéissant lorsqu'il s'agit d'observer les saisons, d'observer la nature. Donc, c'est une des obéissances qui est toute relative et sur laquelle on va se responsabiliser, en fait. On va se dire, il n'y a pas une autorité qui est légitime pour agir sur ce qui me semble être juste ou pas, et on va permettre de le faire nous-mêmes, parce que on se sent responsable, on se sent des gardiens de cette terre, on va y parvenir.
Mais vous désobéissez d'une façon hyper pacifiste. Vous faites rien de grave.
En fait,
qu'est-ce que vous faites de grave? Désobéir, c'est s'affranchir. Bon, dans votre cas.
Ce qui est grave, c'est tout à fait relatif, en fait.
Dans ce que vous faites, qu'est-ce qu'il y a de grave?
Nous, on habite. Ce qu'on nous reproche, c'est d'habiter véritablement dans la nature, même si on sort du cadre de l'urbanisme. Donc ça, ce serait grave aux yeux de la loi, d'habiter chez soi en construisant de façon écologique, parce que la loi ne le permet pas. C'est ce qu'on nous considérait comme proche. Après, nous, on veut aussi défendre véritablement les écosystèmes là où ils ont été abîmés. C'est-à-dire que lorsqu'on voit une forêt qui va être détruite, on veut mettre en place tous les recours possibles pour défendre cette forêt. Mais néanmoins, si ces recours n'aboutissent pas, on veut être là présentement et empêcher, de par notre présence, que ces forêts là le soit, et donc neutraliser véritablement les destructions. On aspire à l'être, en tout cas, et montrer que ce sont les objectifs à atteindre qui vont dépasser les moyens à mettre en œuvre. Nous, on est hyper humaniste, et vous pouvez le voir, mais on a vraiment à cœur de créer cette nouvelle histoire. Et aujourd'hui, ces pollutions, ces destructions, elles sont industrialisées, c'est pas le fait de comportements individuels. Et on veut dire aux gens, allons regarder là où sont aussi les problèmes, et allons nous attacher à un territoire en plantant nos racines et en le pérennisant, ce territoire-là, parce qu'on n'a pas le droit de le détruire, même si ça va générer des profits.
On se retrouve tout de suite sur RTL.
On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL.
14h30, 15h30,
on est fait pour s'entendre
avec Flavie Flamand sur RTL.
Alors Dragoupap, il vous écoute et il dit, moi ça me réconforte dans mon projet futur, parce que vous, votre façon aussi, Caroline et Jonathan, de vous battre pour l'écologie, pour la nature, pour les valeurs qui sont les vôtres, parce qu'elles vont bien au-delà, pardon, de la nature, vous avez des valeurs humaines, enfin il y a quelque chose de, je vous le disais, de soleil chez vous, ça fait du bien, hein, je vous assure. C'est aussi en transmettant ça, hein, Caroline, hein, vous avez à cœur de transmettre votre façon de vivre. Il en est qui nous écoutent et qui rêvent de ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur dire ?
Déjà, j'ai envie de dire qu'on parle aussi au nom de milliers et de milliers de Français qui vivent de la même façon
déjà
que nous, ou en tout cas dans des façons similaires. On a envie de se faire les porte-paroles de tout cela, parce qu'on n'a rien inventé non plus. Et même si la désobéissance fertile nous est propre, il y en avait plein qui vivaient en désobéissance fertile avant. Et qu'est-ce qu'on a envie de leur dire ? On a envie de leur dire que je sais que souvent, il y a des gens qui ressentent de la colère et de la tristesse, justement parce qu'on est embêté par le maire, par les institutions, etc. Et j'ai envie de leur dire quand on rêve et qu'on garde l'objectif de ce rêve et qu'on met chaque pas en avant vers ce rêve, quand on est sur ce chemin, quels que soient les bâtons qu'on essaye de nous mettre dans les roues, peut-être que ça nous ralentit. Mais si on le fait avec l'amour, la joie et aussi de la légèreté, de se dire que la vie, c'est un jeu quand même, et si on prend la vie de ce côté-là, c'est souvent la fatigue qui nous arrête sur le chemin de nos rêves. Mais nous, on se régénère avec cette joie, avec cet amour. Et voilà, et on est sur ce chemin-là, et peut-être qu'ils nous ralentiront, mais on gardera cet objectif.
Ce qu'il faut le dire, vous êtes en conflit au sujet du terrain sur lequel vous vivez. Vous n'êtes pas les seuls d'ailleurs à vivre sur ce terrain qui appartient donc à François, qui peut-être nous écoute s'il est allé chez un voisin. Au-delà même de cette problématique que vous rencontrez aujourd'hui, puisqu'on essaye de déloger ces cabanes, hein, qui sont des cabanes, je le répète, compostables, et qui sont sur un terrain privé.
Agricole, oui.
Agricole. Au-delà de ça, qu'est-ce que les gardiens de territoire ? Est-ce que ça peut en inspirer certains concrètement ?
Oui. En fait, comme disait Caro tout à l'heure, il est important que ce modèle puisse être accessible à tout à chacun. Et donc, on a lancé une initiative qui s'intitule Gardiens des territoires, où on invite véritablement les propriétaires de terrains qui n'utilisent pas ces terrains-là à les mettre à disposition de collectifs comme nous qui pourraient soigner ces terrains, qui pourraient ramener de la vie, planter des arbres et qu'il y ait un contrat entre les deux. Donc, c'est un prêt à usage gratuit qu'on a mis en place et qui permette justement de se réconcilier, de ramener de la vie aussi dans les territoires
ruraux. Ça n'est pas tant en fait de venir installer des cabanes dans un terrain pour ceux qui nous écoutent, mais c'est aussi de faire vivre ce terrain.
Hein, tout à fait.
De faire revenir les animaux, de planter, de redonner finalement à la nature ces lettres de noblesse sur ces terrains-là.
Tout à fait. En fait, le fondement même c'est de la désobéissance fertile, c'est de montrer qu'on peut avoir une empreinte vertueuse. C'est montrer qu'on peut faire partie de la solution là où on a été le problème jusqu'alors. Et d'ailleurs, on donne énormément de préconisations par rapport à cela pour y parvenir. Et en fait, ça peut donner un visage beaucoup plus souriant à notre humanité si on se place de ce point de vue de la régénération. Et ce qui est génial, c'est que c'est accessible véritablement à tout le monde.
Donc, il y a ceux qui nous écoutent et qui disent « Moi, j'ai un terrain agricole qui ne sert à rien et qui est en friche et puis qui, de toute façon, n'apporte rien. Donc, je peux me mettre en contact avec Gardiens des Territoires. »
Tout à fait. Voilà. Donc, sur la plateforme désobéissancefertile.com qui est en maintenance, malheureusement, parce que les serveurs d'OVH ont brûlé l'hébergeur il y a deux jours.
D'accord,
donc,
ok.
Donc, on va remettre
tout
ça en place.
Tout est normal, ouais.
Mais en tout cas, se mettre en lien avec les habitants de son territoire, mettre une affiche dans son commerce local, c'est ce qu'on préconise, pour expliquer soit qu'on a un terrain, soit qu'on a une volonté, et donc se mettre en lien de cette façon-là.
Ça veut dire que si j'ai envie d'avoir ma cabane, moi,
oui,
je peux le faire.
Mais bien sûr, parce qu'en fait, c'est vos rêves qui vont porter vos réalités, et pas les réalités qui vont influencer nos rêves. Et parce que vous êtes actrice de votre quotidien, et ben vous allez pouvoir déployer tout ce qui vous semble bon et juste pour vous et pour votre milieu.
Je pourrais planter des arbres aussi, je pourrais faire tout ce que vous faites, quoi.
Bien sûr.
Et surtout, je pense, important à travers ce prêt à usage, c'est d'entrer dans l'ère de la collaboration.
Mais évidemment.
Parce que jusqu'à présent, on est vraiment dans cette société individualiste, propriétaire, de domination, et vraiment de sortir de ça pour se dire, en fait, on est vachement plus fort ensemble, et c'est le seul moyen, et d'arrêter de vouloir aussi tout le temps progresser vers l'extérieur. On a un progrès technologique incroyable, mais essayer de progresser aussi de l'intérieur. C'est vraiment un message qu'on a envie de passer aussi. L'humanité, vraiment, elle changera que si on change chaque individu à la fois intérieurement. Donc,
et collectivement.
Vous incarnez magnifiquement cette désobéissance fertile. C'est le titre de votre livre, Jonathan Attias, pour une écologie offensive aux éditions Payot. Je voudrais vous remercier tous les deux. Si vous voulez voir également le travail de Caroline qui est doula, vous allez sur le site Tata Doula ou sur votre page Facebook. Merci beaucoup.
Merci.
Vous deux, vous embrasserez les filles. Ça nous a fait du bien de voir des gens comme vous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à demain pour notre magazine Conso. Nous voilà bien. Des infos et des conseils pour devenir un consommateur averti. Nous, on aide effectivement à ne pas se faire complètement papaouter. Et puis lundi, dès 14h30, pour une nouvelle semaine d'échanges, de philo, de partage dont on est fait pour s'entendre. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse.
RTL. On est fait pour s'entendre.